Parler de Machiavel, cela signifie aussi parler d'un moment. Ce moment, c'est un moment de guerre, les guerres d'Italie. Les guerres d'Italie, c'est le terme que l'historiographie française a donné à cette suite de conflits quasiment ininterrompus qui vont se dérouler de 1494 à 1559, à la paix du Cateau-Cambrésis, et qui seront particulièrement virulents, particulièrement forts, de 1494 à 1530. C'est essentiellement de cette période dont je voudrais parler aujourd'hui au sein de ce cours. Nous pourrions commencer par évoquer une phrase de Machiavel dans une de ses lettres, une lettre qui dit déjà ce que furent ces années-là pour ces personnages qui essayaient à la fois de penser et de faire la politique. Machiavel écrivait donc à son ami Francesco Guicciardini, Guichardin, le 3 janvier 1526, « D'aussi loin que je me souvienne, soit on a fait la guerre, soit on en a parlé. » Faire la guerre, être présent sur le champ de bataille, ce fut effectivement une partie de la vie des deux hommes, Machiavel et Guicciardini. En parler, ce fut aussi une partie de leur vie, le discours et les actes ici étant étroitement et constamment mêlés. Pour comprendre cela, je crois qu'il faut essayer de présenter ce que furent ces guerres d'Italie. En commençant par évoquer ce qui a rendu possible ces guerres d'Italie. Ce qui a rendu possible ces guerres d'Italie, c'est probablement d'abord le fait que, en cette fin de XVe siècle, l'Europe a changé. Les guerres d'Italie vont commencer en 1494. En 1492, l'Espagne, les Espagnes, pourrions-nous dire, a fini sa reconquista, c'est-à-dire que l'Espagne a achevé son unité territoriale. Elle est en quelque sorte prête pour d'autres aventures extérieures. À la même époque, la guerre des Deux Roses en Angleterre a pris fin et donc la monarchie anglaise s'est renforcée. À la même époque, après le règne de Louis XI et la minorité de Charles VIII, la France est définitivement sortie de la guerre de Cent Ans. Les velléités des nobles français de résister au jeune Charles VIII ont été étouffées. Et la France peut être disponible, elle aussi, pour d'autres combats et d'autres aventures. Nous sommes donc dans une Europe où les grandes monarchies nationales peuvent regarder du côté de l'Italie avec envie. Pourquoi ? Parce que effectivement, la péninsule est probablement la partie de l'Europe qui est la plus riche à cette époque-là, la partie de l'Europe qui peut donc être un but de guerre, si je puis dire, alléchant pour les nouvelles monarchies et pour les grandes monarchies nationales, et la partie de l'Europe qui est probablement aussi la plus fragile à cet égard, la plus faible, hein, puisque l'Italie, et c'est le second point qui est important pour comprendre un petit peu la matrice de ces guerres, l'Italie est divisée à ce moment-là en une multitude de petits États dans lesquels se distinguent 5 États plus importants que les autres, qui sont respectivement les deux républiques de Venise et de Florence, le duché de Milan, le royaume de Naples et les États pontificaux. Ces États-là se sont souvent fait la guerre. Ces États-là ont souvent essayé de rogner les territoires de leurs voisins. Mais depuis une quarantaine d'années, on peut dire que c'est une sorte d'équilibre qui a prévalu dans la péninsule, équilibre sanctionné par la paix de Lodi de 1454, et qui fait que les États italiens ont accepté de ne plus essayer d'influer, disons, sur le sort de leurs voisins, sauf exception, et aussi de maintenir une sorte de stabilité à la fois politique et territoriale au sein de la péninsule. C'est un peu cette situation qui va se modifier, qui va exploser, pourrions-nous dire, hein, à l'automne 1494, pour des raisons à la fois extérieures, les ambitions du jeune roi de France Charles VIII, et intérieur à la péninsule, les ambitions non moins grandes du duc de Milan, Ludovic Sforza, et le renversement d'alliance du jeune et incompétent Pierre de Médicis, qui est à la tête de l'État florentin, et qui a préféré en quelque sorte une alliance napolitaine aux alliances traditionnelles florentines. Nous sommes donc à l'automne 1494. Et c'est là que va commencer la première étape d'un très long conflit qui va occuper la France d'abord, puis la France et l'Espagne, puis la France, l'Espagne, les cantons suisses, les terres de l'Empire, voire même le lointain roi d'Angleterre, pendant plusieurs décennies. Pour présenter ces guerres d'Italie, je ferai une distinction entre quatre moments principaux. Le premier moment, celui que j'appellerais les préliminaires, si je puis dire, de ces guerres, commence en 1494, au mois de septembre 1494, et nous conduira jusqu'en 1503, année qui marque l'installation définitive, pourrions-nous dire, des Espagnols, de l'intervention espagnole dans la guerre, dans les guerres de la péninsule. Le deuxième moment, sur lequel je m'attarderai, nous conduira de 1503 à 1520. C'est le moment qu'on pourrait appeler celui du partage de la péninsule entre deux acteurs étrangers principaux. D'un côté, le Royaume de France, qui contrôle peu ou prou le nord de l'Italie, et de l'autre, le Royaume d'Espagne, qui contrôle le sud de la péninsule. Le troisième moment nous conduira de 1520 à 1530, des premières défaites du roi de France, François Ier, jusqu'au triomphe définitif de l'empereur Charles Quint, du jeune empereur Charles Quint, qui est aussi le roi d'Espagne, qui est aussi devenu le roi d'Espagne. Charles Quint, qui va être couronné solennellement empereur et recevoir la couronne de fer de roi d'Italie aussi à l'occasion du grand congrès de Bologne de 1530. À l'issue de cette troisième étape, nous rentrons dans la quatrième étape, si je puis dire, plus longue, hein, 29 ans, de 1530 à 1559, puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, la fin des guerres d'Italie est traditionnellement, dans l'historiographie française, marquée par le traité du Cateau-Cambrésis en 1559. Et cette dernière période est marquée par le déplacement du centre de gravité du conflit entre les Valois et les Habsbourg, entre les rois de France et les rois d'Espagne, de l'Italie vers la grande plaine du nord de l'Europe. Et dans une certaine mesure, à l'issue de cette quatrième étape des guerres d'Italie, l'Italie est renvoyée en quelque sorte à la marge, à la périphérie de l'histoire européenne. Elle y restera pendant deux siècles. Reprenons donc ces moments, ces différents moments, à commencer par le premier, donc 1494-1503. Au mois de septembre 1494, au début du mois de septembre 1494, Charles VIII, nouvel Hannibal selon ses turiféraires, va franchir les Alpes au col du Mont-Genèvre à la tête d'une armée plus puissante que celle qu'on a l'habitude de voir ravager les différentes campagnes d'Europe d'ordinaire, une armée qui compte de 25 à 30 000 hommes selon les sources, et qui a pour but d'aller revendiquer les droits de la couronne de France, ou en tout cas ce que Charles VIII estime être les droits de la couronne de France, au nom de l'héritage angevin, sur le royaume de Naples. Il s'agit donc pour Charles VIII de se faire couronner et désigner très officiellement roi de Naples et de Jérusalem. Et de Jérusalem parce que traditionnellement, la couronne de Jérusalem est associée à la couronne napolitaine, ce qui permet par ailleurs au roi de France de se draper dans le manteau du preux croisé qui s'apprête à aller délivrer le tombeau du Christ après l'étape napolitaine. Donc voilà, c'est ce que l'on nous dit. C'est ce que nous dit la propagande du royaume de France et du roi de France quand il désigne cette campagne. Cette campagne a été très fortement encouragée, dirons-nous, par Ludovic Sforza, le duc de Milan, dont je parlais tout à l'heure, et duc de Milan, qui voit là une occasion d'utiliser en quelque sorte la force brute de ces barbares français pour modifier les équilibres à l'intérieur de la péninsule. C'est ce qui fera dire à de nombreux analystes de ce temps que ce sont les princes italiens eux-mêmes, en quelque sorte, qui ont creusé leur propre tombe, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. La campagne commence et jusqu'au mois de février 1495, elle va conduire l'armée française et le roi de France des Alpes jusqu'à Naples. Campagne relativement courte, donc, à peine 6 mois pour aller conquérir le royaume de Naples. Une campagne qui se déroule sans grande bataille, comme le diront les commentateurs de l'époque, les témoins de Comines à Machiavel. Les Français emportèrent le royaume de Naples quasiment sans enlever leurs éperons de bois et, comme le rappelle Machiavel, en utilisant simplement la craie des gens qui préparaient le logement des troupes la veille du passage de l'armée, en mettant des croix sur les maisons qui seraient réquisitionnées. Donc sans faire usage des armes, en quelque sorte. Alors, c'est une image un petit peu d'Épinal, si on excuse l'anachronisme, puisque quand même, cette campagne, même si elle ne connut pas de grandes batailles, ne fut pas exemple de morts. On verra tout à l'heure que justement, une des grandes caractéristiques de ces nouvelles guerres, c'est d'être à la fois plus violente et plus rapide. Plus rapide parce qu'effectivement, aller conquérir le royaume de Naples en 6 mois, ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable a priori dans la tête des contemporains. Et d'ailleurs, cette rapidité va les frapper, il va falloir en rendre compte. Et cela ne sera pas pour rien dans l'émergence d'un nouveau discours sur l'histoire du temps présent et d'un nouveau discours sur la politique. Alors, les Français conquièrent le royaume de Naples rapidement, mais une fois que ce royaume est conquis, ils se retrouvent dans une situation où, dès le mois d'avril 1495, l'ensemble des États italiens, auxquels se joint d'ailleurs déjà l'Espagne, même si elle ne jouera pas dans la campagne qui suit un grand rôle, l'ensemble des États italiens se liguent contre le roi de France, à l'exception de Florence, qui reste l'allié indéfectible de Charles VIII. Du même coup, le roi de France a peur d'être bloqué à Naples et décide, en laissant un certain nombre de garnisons et quelques troupes dans le royaume, de rentrer en France dans une sorte de retraite qui ne va pas être facile puisqu'il lui faut faire en sens inverse, si je puis dire, les 2000 km qu'il avait fait très rapidement l'année précédente. C'est ce qui va être fait et qui va donner lieu à la première grande bataille des guerres d'Italie, la bataille de Fornoux, qui va se dérouler de façon assez curieuse puisque les deux belligérants, l'armée italienne d'un côté, l'armée française de l'autre, revendiqueront la victoire, les uns parce qu'ils ont réussi à forcer le passage, les Français, les autres parce qu'ils sont restés maîtres du terrain, les Italiens, si je puis dire. La première campagne des guerres d'Italie semble donc être réduite au terme de cette année 1494-1495 à une sorte d'épisode. Les barbares français, puisqu'ils sont qualifiés comme tels par les Italiens, étant rentrés chez eux aussi vite qu'ils avaient traversé les Alpes et envahi la péninsule. Alors, cet épisode va en fait n'être que la première des étapes, le premier des moments de ces guerres continuelles qui vont durer plusieurs décennies, puisque Charles VIII, à peine rentré, n'a de cesse de préparer une nouvelle campagne. Il n'aura pas le temps de la mener lui-même, puisqu'il meurt de façon imprévue et très jeune en 1498. Mais son successeur, Louis XII, lui, va non seulement revendiquer la couronne napolitaine, mais revendiquer aussi, au nom toujours de vieilles prétentions dynastiques, qui on peut avoir avec la modernité de ces guerres d'ailleurs, Louis XII donc va revendiquer le duché de Milan hein, au nom de sa grand-mère qui était une Visconti, donc qui était une héritière des vieux ducs de Milan. Du même coup, la première campagne que Louis XII va mener en Italie en 1499 va le conduire à instaurer sur le duché de Milan une domination française qui, avec quelques intermittences, va durer une grosse vingtaine d'années. Hein. C'est l'ouverture, en quelque sorte, de ce moment, de ce deuxième moment des guerres d'Italie, celui que j'appelais le moment du partage de la péninsule entre la France et l'Espagne. Puisque un deuxième acteur essentiel, principal, fait son apparition sur le champ de bataille italien, la couronne espagnole, qui veut aussi, au nom de prétentions dynastiques liées à l'héritage non plus angevin, mais cette fois aragonais, qui avait marqué la vie du royaume au XVe siècle, qui veut occuper le sud de l'Italie et qui, après quelques péripéties sur lesquelles je passe, parvient à le faire à partir de 1503, justement. Donc on est dans une situation, pendant une vingtaine d'années, on va dire, dans laquelle l'Italie est dépecée, en quelque sorte, entre les deux monarchies nationales les plus puissantes du moment, le Royaume de France, à la tête duquel on trouve Louis XII, puis à partir de 1515, le jeune roi François Ier, et le royaume d'Espagne, la monarchie espagnole, à la tête de laquelle on trouve Ferdinand le Catholique, roi d'Aragon, puis roi d'Espagne à partir de son mariage avec Isabelle la Catholique et surtout à partir de la mort d'Isabelle la Catholique. Après Ferdinand, Charles de Habsbourg, qui va devenir en 1519 empereur sous le nom de Charles Quint et qui va hériter à la fois de l'Empire et du Royaume d'Espagne. Donc les deux acteurs principaux de ces conflits sont installés sur le territoire italien et très clairement, l'Italie devient l'enjeu de la rivalité de ces deux États les plus puissants de l'Europe de ce temps. C'est-à-dire que l'Italie devient le cœur, le centre hein, de la politique européenne et va le demeurer pendant une bonne trentaine d'années. C'est cette situation qui fait dire à Guicciardini, au début de son discours de Logrogno, écrit en 1512, que l'Italie a dans ses entrailles de six grands rapaces. Hein. Les six grands rapaces, ce sont bien évidemment l'Espagne et la France, auxquels vont s'ajouter durant cette période-là, pendant un bref instant, les cantons suisses, qui vont connaître, si je puis dire, leur heure de gloire de 1512 à 1515, en dominant et en mettant en coupe réglée d'ailleurs le duché de Milan, au débouché des vallées suisses, jusqu'à la fameuse bataille de Marignan, hein, date connue s'il en est de l'histoire française, qui fut en fait un combat relativement obscur durant deux journées et dont on ne sut véritablement qu'à la fin qui allait en sortir vainqueur. Combat précédé d'ailleurs par d'âpres négociations purement financières entre les Suisses et les Français ayant voulu éviter cette bataille. Donc les Suisses, je le disais, pendant trois ans auront leur moment de gloire. Ils dérangeront en quelque sorte les plans des deux grandes monarchies nationales. C'est un épisode, mais c'est un épisode qui a son importance parce que au moment où, par exemple, Machiavel écrit Le Prince, sa correspondance avec Vettori, avec Francesco Vettori, nous montre bien que la question suisse est une question essentielle pour l'analyse de l'échiquier européen à ce moment-là et pour l'analyse aussi du rapport entre ce que peut être une institution, un régime républicain et la participation à une guerre. On y reviendra à un autre moment. Donc ce grand moment du partage de la péninsule entre la France et l'Espagne, cette espèce de nouvel équilibre hein, à l'intérieur de la péninsule italienne, va être rompu au début des années 20 par une succession de défaites cuisantes de François Ier. La plus grave étant celle de Pavie, hein, des plus grands désastres de l'histoire militaire française, avec des milliers de morts qui restent sur le terrain, la fine fleur de la noblesse française qui est décimée par les arquebuses espagnoles, et qui va conduire en fait Charles Quint à se retrouver dans une situation de domination sans partage hein, sur la péninsule. Donc cela va se faire progressivement, évidemment. J'ai parlé pour ce moment du triomphe impérial d'une période d'une dizaine d'années, dont les grandes scansions sont au-delà de la bataille de Pavie, que j'évoquais tout à l'heure, le sac de Rome hein, en 1527, qui va marquer la chrétienté, puisque c'est la première fois que cette capitale de la chrétienté qu'est Rome, siège des papes et des états pontificaux, est mise à sac par des armées étrangères. C'est la première fois depuis des siècles que cela se passe, hein, depuis les sacs bien connus commis par les envahisseurs barbares dans mille ans auparavant. Et le sac de Rome, donc, va être une sorte de grand traumatisme hein, qui marque que dans ces guerres d'Italie, tout est possible, hein, y compris une agression d'une violence sans pareille contre ce qui devrait être le siège commun, en quelque sorte, des chrétiens. Après le sac de Rome de 1527, au terme d'une dernière campagne perdue dans le royaume de Naples par les armées françaises, l'empereur Charles Quint est donc triomphalement couronné dans la ville de Bologne. Il n'a pas osé quand même le faire à Rome. Trois ans après, c'était un peu trop tôt. La France renonce quasiment à toute prétention sur l'Italie. Ce sera le cas, y compris dans les 30 années qui suivent, qui sont plutôt des années de complot, de conjuration, de coups de main, plus que des années de grandes campagnes militaires sur la péninsule. Alors, que tirer de cette longue narration de ces guerres que je qualifie de nouvelles? Pourquoi d'abord les qualifier de nouvelles? Tout simplement parce que pour Francesco Guicciardini, dans les Storie Fiorentine, avec une acuité étonnante, la venue de Charles VIII changea non seulement les États, mais les façons de les gouverner et les façons de faire la guerre. C'est-à-dire que la guerre ne modifie plus un tracé de frontières à la marge de l'État, elle frappe au cœur de l'État, elle peut renverser l'État. Et tout d'un coup, dans ces guerres-là, s'impose à la politique un horizon de mort. C'est-à-dire que l'État peut mourir. Et du même coup, la politique ne peut plus être la même. Et l'État peut d'autant plus mourir que de nouvelles façons de guerroyer se sont imposées. Des façons qui font que les armées, comme je le disais tout à l'heure, sont plus rapides, tout simplement parce que, par exemple, les canons sont tirés par des chevaux, parce qu'ils sont plus légers, donc on peut les faire tirer par des chevaux et plus par des bœufs, mais aussi parce que l'on combat toute l'année et pas simplement à certaines saisons quand il fait pas trop chaud ou pas trop froid, mais aussi parce que l'on n'hésite pas à développer de nouvelles formes de violence militaire, pour l'exemple, avec les nombreuses mises à sac de villes, le passage au fil de l'épée de civils et pas simplement de militaires, et la mise en coupe réglée des territoires occupés, puisque le prolongement, l'extension des lignes de communication pose des problèmes logistiques quasiment insurmontables, notamment à l'armée espagnole. Donc nous sommes véritablement face à de nouveaux types de guerres qui vont imposer l'idée de ce que Machiavel va appeler l'extraordinaire. C'est-à-dire que la guerre plonge la péninsule dans une sorte d'état d'urgence permanent qui rend nécessaire l'émergence d'une nouvelle intelligibilité de l'histoire, de nouveaux éléments d'explication de ce qui est en train de se passer, parce que tout simplement, on ne comprend plus ce qui est en train de se passer, et l'émergence aussi de nouvelles propositions pour essayer de faire vivre, pour essayer de protéger de cette mort qui la menace, l'institution républicaine chère à Machiavel ou à Guicciardini, la République de Florence, la République, leur patrie. Comment sauver la patrie face à ces guerres nouvelles? Nous sommes bien loin de la rencontre de deux cultures françaises et italiennes que l'on met souvent au cœur du récit des guerres d'Italie, même si cela fait aussi partie de la question. Les guerres d'Italie, ce fut aussi et surtout un lieu d'émergence d'une nouvelle vision de la politique et de l'histoire. La République et la guerre, c'est le titre que l'on pourrait donner à cette leçon de ce cours machiavélien, parce que si l'on ne réfléchit pas au fait que Machiavel écrit dans une République en guerre, pour une République en guerre, et pour une République qui subit les effets de la guerre et qui peut craindre les menaces que font peser les guerres continuelles dans la péninsule italienne au début du XVIe siècle, je crois que si on ne prend pas en compte tout cela, on ne peut pas comprendre Machiavel, on ne peut pas comprendre non plus comment il se fait que Machiavel, à cette époque-là, est l'un des penseurs de la politique et de l'histoire qui se multiplie à Florence, avec des discours qui sont probablement, pour beaucoup d'entre eux, moins aigus, moins pertinents, qui auront une fortune moins grande dans les siècles qui suivent, mais qui tous partent du même constat. Il faut repenser, il faut remettre sur le métier une nouvelle réflexion sur la République. Une République qui nécessairement ne peut se contenter des vieilles solutions. Et ça, c'est la grande nouveauté hein, de cette affaire, la grande nouveauté introduite par cette situation de guerre, c'est que l'enjeu qui est, comme on l'a vu dans une autre leçon, la mort ou la survie de l'État, fait que les vieilles solutions institutionnelles ne jouissent plus de la même confiance. On ne croit pas que les solutions se trouvent uniquement dans le passé. On ne croit plus que Florence puisse trouver dans l'héritage républicain communal les solutions pour assurer sa survie face à la pression des grandes monarchies nationales et tout simplement des autres États qui existent, qui se trouvent à ses frontières. Donc pour comprendre un peu cette question, il suffirait de rappeler ce geste très important, qui n'est pas un geste de Machiavel, mais un geste de Guicciardini, ce geste théorique très important de Guicciardini dans son dialogue le plus important sur les institutions florentines, le dialogue sur la façon de régir Florence, qui situe le dialogue, la fiction, la narration, se situe dans l'hiver, pendant l'hiver 1494-1495. Ce dialogue est écrit 25 ans plus tard, hein, mais il est situé pendant l'hiver 1494-1495. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est là que tout commence, justement, pour la nouvelle réflexion sur la République. Parce que face à la guerre insolite, hein, que Savonarole décrit dans ses sermons, et dont Savonarole donne en quelque sorte la première lecture, en direct, pourrions-nous dire, avec des termes contemporains, dans ses sermons. Face à cette guerre insolite, donc, il s'agit de, comme le dit Savonarole, chanter au Seigneur un cantique nouveau. Chanter au Seigneur un cantique nouveau, on peut en faire une lecture aussi bien laïque que religieuse. Il ne s'agit pas simplement de réformer les mœurs des citoyens, il faut réformer la cité. La réforme des mœurs étant le socle d'une réforme de la cité, mais la réforme des mœurs ne pouvant exister sans une réforme de la cité. Donc il faut penser une nouvelle république, parce que les vieilles solutions qu'étaient le gouvernement communal ou le gouvernement oligarchique ou la crypto-seigneurie médicéenne, ces trois grandes solutions qui avaient dominé l'histoire florentine dans les deux siècles précédents, ne sont plus suffisantes. Et ce sera d'ailleurs là une des caractéristiques les plus importantes de l'ensemble des textes qui vont être écrits, de l'ensemble des paroles qui vont être prononcées sur la réforme des institutions pendant une trentaine d'années, à savoir que Florence n'a jamais été bien gouvernée. Et que donc, il faut penser un nouveau gouvernement parce que, justement, un bon gouvernement est nécessaire. Et que ce bon gouvernement est nécessaire parce que sinon la République pourrait bien mourir. C'est ça la situation dans laquelle on se trouve placé à l'automne 1494, quand Charles VIII envahit l'Italie et au passage met à bas le régime médicéen florentin, puisque Pierre de Médicis est chassé honteusement de la ville au début du mois de novembre, et que les Florentins, après avoir expulsé leur seigneur dissimulé, hein, qui n'avait pas le nom de seigneur, mais qui en avait les agissements, après avoir chassé donc Pierre de Médicis, les Florentins se demandent ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient à la situation institutionnelle qui prévalait avant les 60 ans de pouvoir médicéen, donc avant 1434, ou est-ce qu'on essaye de faire autre chose ? Et Savonarole va tous les jours quasiment monter en chaire pour dire très clairement aux Florentins qu'il faut faire autre chose. Et cette autre chose, ça va déboucher sur, à la fin du mois de décembre, autour de Noël, le 24, 25, 26 décembre 1494, par le vote de la création d'une nouvelle institution qui n'a jamais existé à Florence, le Grand Conseil. C'est une nouvelle république qui naît à ce moment-là, qu'on pourrait appeler la République du Grand Conseil, qui va marquer les esprits. Qui va marquer les esprits pourquoi ? Parce qu'il s'agit probablement là de la forme de gouvernement la plus ouverte qu'ait connue l'Europe jusqu'à la Révolution française, hein, puisque avait accès au Grand Conseil plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes étaient en charge, en quelque sorte, de la souveraineté de l'État. Le centre des nouvelles institutions devient donc une instance que l'on pourrait appeler, avec un adjectif de l'époque, large, hein, par rapport aux instances étroites, les conseils étroits de gouvernement fondés sur la concentration du pouvoir en un nombre de mains réduit et sur, évidemment, le secret des délibérations. Donc une instance large, le Grand Conseil, qui devient le cœur d'une nouvelle république. Cette nouvelle république va durer jusqu'en 1512, avec un débat incessant, hein, qui l'anime, y compris au-delà de la mort de Savonarole en 1498, hein, puisque Savonarole est arrêté par ses adversaires, puis jugé sommairement et tué sur la place de la Seigneurie dans une exécution publique de pendaison puis de bûcher. Donc après la disparition de Savonarole, les institutions qu'il avait voulu restent en place jusqu'en 1512 et sont débattues constamment. Elles sont débattues constamment parce que la République a le problème que rencontre traditionnellement tout régime d'assemblée, à savoir faciliter une prise de décision plus rapide, hein, et plus efficace, en quelque sorte, mieux susceptible de s'adapter aux heurts et malheurs de la guerre continue. et que cela passe probablement par une réflexion sur la nature du pouvoir exécutif, pour utiliser un terme moderne. C'est ce qui conduit la République à voter la création d'un poste de gonfalonier à vie, le gonfalonier étant en quelque sorte le chef de l'exécutif florentin traditionnellement, un poste de gonfalonier à vie censé assurer une forme de stabilité au pouvoir républicain. Alors là, on a une entorse extrêmement forte qui est faite à une des traditions de la vie politique florentine, qui était la rotation extrêmement rapide des charges pour éviter toute tentation tyrannique. Cette entorse qui est faite à la tradition est une réponse très clairement à l'état de guerre et à la nécessité de prise de décision plus rapide au sein de la République. Elle est liée à l'état d'urgence et ce n'est pas un hasard si le Machiavel qui écrira Le Prince pour essayer de penser justement une forme d'action susceptible de redonner une efficacité à l'État dans un état d'urgence est un des proches conseillers du nouveau gonfalonier à vie élu en 1502, Piero Soderini. Piero Soderini va rester au pouvoir pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1512, moment où il va être chassé et où les Médicis reviennent au pouvoir avec l'armée espagnole, poussée par l'armée espagnole, si je puis dire. Ils reviennent au pouvoir et la première chose qu'ils font, évidemment, c'est fermer le Grand Conseil. Et du même coup, ils transforment le Grand Conseil en symbole des institutions de la Nouvelle République qui vient de tomber. Et donc, ils créent une sorte de nostalgie du Grand Conseil qui va être extrêmement importante pour toute la réflexion sur les institutions républicaines. C'est-à-dire que Machiavel, Guicciardini, Vettori et tant d'autres considèrent et disent, écrivent de façon extrêmement explicite que dès lors que les Florentins ont goûté, c'est le terme qu'ils utilisent, ont goûté au Grand Conseil, rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne peut plus jamais être comme avant. Et ils reviennent, y compris dans des textes écrits pour les Médicis, sur cette question, en soulignant que, c'est ce que fait par exemple Machiavel dans le Discursus Florentinarum Rerum, écrit en 1520 pour le pape Léon X, en soulignant donc qu'il est indispensable de rouvrir la salle. Rouvrir la salle, c'est rouvrir la salle d'un conseil large, rouvrir la salle du Grand Conseil, pour donner quelques satisfactions à la tradition républicaine florentine. Parce que le cœur de ce débat est bien là, c'est que la libertà, la libertas, selon qu'on le dit en langue vulgaire ou en latin, est considérée par la très grande majorité des Florentins comme quelque chose qui est consubstantiel à la cité. C'est-à-dire que la libertà, la libertas, est, selon un terme de l'époque, considérée comme naturale, naturelle. Elle est naturelle, ça veut dire qu'elle appartient de toute éternité à la tradition, elle fait partie de l'héritage de tout citoyen, elle est en quelque sorte intangible, intouchable, et quel que soit le régime qui prévaut dans la cité, la liberté, la libertas, c'est-à-dire les institutions républicaines, doivent être peu ou prou préservées. On doit trouver une solution institutionnelle pour préserver cette République. C'est-à-dire qu'à Florence, la question du passage au Principat n'est absolument pas de saison avant les années 30. Il ne faut pas, à cet égard, faire d'anachronisme. Il faut essayer d'écarter toute tentation téléologique. Il ne faut pas faire l'histoire des vaincus à la lumière de leur défaite. Et considérer qu'il y aurait une sorte de caractère inéluctable du passage de la République au Principat, ce n'est pas comme ça que les choses se sont jouées durant ces 30 années. Ce qui s'est joué durant ces 30 années, entre 1494 en gros et 1530, c'est le conflit, le débat entre une tradition la République et en état des choses la guerre qui imposait des contraintes à cette République. Et toute la réflexion des participants à ce débat, au moins jusque, disons, au milieu des années 20, c'est d'essayer de préserver l'essentiel, y compris sous une forme quelque peu autocratique, hein, pour certains. Mais on n'a pas encore basculé, en quelque sorte, dans le renoncement la forme des institutions républicaines. Même si Florence a toujours été mal gouvernée, il faut essayer de penser une façon de la gouverner mieux. D'où la deuxième grande réflexion qui aura ô combien d'importance dans l'ensemble des textes de l'époque, qui est la deuxième grande provocation hein, des penseurs républicains de ce temps, qui est le fait que la République doit faire une place à la pensée de l'ennemi. C'est-à-dire que la République doit faire une place aux divisions internes. Les divisions internes ne sont pas nécessairement porteuses de dissolution de la communauté républicaine, elles peuvent être porteuses de liberté. C'est quelque chose qui est au cœur de la pensée machiavélienne, qui n'est d'ailleurs pas absente non plus de la pensée de Guicciardini, et qui naît justement de l'intensité de ce débat sur les formes de la République. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite, après ce retour des Médicis? On a une hésitation constante sur le type d'institution à mettre en place. Preuve en est, à la fin de la deuxième décennie du siècle, l'appel fait par les chefs de la famille Médicis eux-mêmes, hein, par le cardinal de Médicis et par le pape Léon X, à produire des textes des projets, donc des propositions de réforme des institutions. Donc, c'est dans ce cadre-là, par exemple, que va être écrit le Discursus Florentinarum Rerum de Machiavel, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc le débat est voulu, y compris par ceux qui sont censés être les fossoyeurs de la République dans l'historiographie traditionnelle. Cela signifie que la solution de rechange, en tout cas la solution avouable, ne peut être encore le Principat. Alors, le fait que Machiavel ait écrit un livre qui s'appelle « Le Prince » ne signifie évidemment pas que Machiavel ait été un défenseur du Principat. Et le fait que Machiavel ait écrit un livre qui s'appelle « Le Prince » ne signifie pas davantage qu'il y aurait un Machiavel républicain représenté par les discours et un Machiavel favorable au pouvoir princier qui serait représenté par le prince. Cette dissociation des deux textes est totalement absurde. Simplement, ces deux textes ont deux fonctions différentes, répondent à deux types de questionnements différents. Pour un homme qui, tout au long de sa vie, n'aura de cesse d'aimer la patrie plus que son âme, hein, selon le topos républicain florentin bien connu, et d'essayer de penser hein, la préservation de sa cité natale comme cité natale, mais aussi comme république. Et c'est probablement ce qui fait d'ailleurs que se nourra cette amitié étonnante à partir de 1520-1521 avec Francesco Guicciardini. Étonnante parce qu'ils ne font pas partie du même groupe social, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes positions politiques et parce qu'en définitive, ils n'étaient pas nécessairement appelés à se rencontrer et à communier ensemble dans la défense de la République florentine. Cette défense de la République florentine va connaître un moment particulièrement problématique hein, à partir du sac de Rome, évoqué dans un autre chapitre de ce cours. Sac de Rome qui va conduire à une exclusion nouvelle des Médicis de la cité. Donc, en juin 1527, les Médicis repartent, on rouvre la salle du Grand Conseil, on revient aux institutions qui prévalaient avant 1512, et pendant trois ans, la République florentine va en quelque sorte briller de ses derniers feux, mais sans savoir évidemment que ce sont les derniers. Hein. Pensons au début des avertissements politiques de Guicciardini, à ce premier ricordo, écrit probablement à l'automne 1530, deux ou trois mois avant la chute définitive de la République, et dans lequel Guicciardini lui-même, qui pourtant est devenu un adversaire farouche de cette dernière République florentine, où Guicciardini lui-même donc dit qu'il ne serait pas surprenant que finalement les républicains l'emportent, puisque leur obstination et leur foi dans les prophéties de frère Jérôme de Ferrare, c'est-à-dire de Savonarole, les conduit à pouvoir résister contre toute raison aux armées liguées contre eux du pape et de l'empereur. Donc, 3 ans politique républicaine qui va devenir très rapidement une politique républicaine radicale entre 1527 et 1530 et qui tente de faire survivre à Florence, dernier lieu de l'Italie dans lequel cela peut être possible si l'on accepte la République de Venise, qui a toujours un statut à part dans l'histoire italienne, dernier lieu donc où pourrait survivre une forme républicaine, disons, italienne classique. 1527-1530, pendant 3 ans, donc, ces Florentins vont revenir à une alliance française, ils vont revenir à une politique anti-impériale, et ils vont revenir surtout à des institutions beaucoup plus larges où les grandes familles ne détiennent pas l'essentiel du pouvoir, où sont inclus dans la participation au gouvernement le groupe que l'on appelle des médiocri, c'est-à-dire des gens moyens, où les Médicis n'ont plus évidemment part à l'élaboration de la politique citadine. Tout cela va se terminer relativement mal parce que à partir de l'automne 1529, Florence va être encerclée très rapidement par l'union des troupes impériales, l'alliance des troupes impériales et des troupes pontificales, qui est la suite du traité de Barcelone de 1529, dans lequel, en gros, Clément VII, le pape Médicis, le pape appartenant à la famille des Médicis, pardonne le sac de Rome à Charles Quint, en échange de quoi Charles Quint s'engage à rétablir la famille des Médicis à Florence, ce qui sera fait effectivement au terme d'une campagne plus longue qu'il ne l'avait prévu, puisque normalement l'union des deux glaives de l'empereur et du pape aurait dû mettre à bas la République assez vite. Et Florence va résister contre toute raison, comme je le rappelais tout à l'heure, pendant quasiment un an de siège, hein, jusqu'au mois d'août 1530, aux troupes liguées contre elle. Et si Florence résiste aux troupes liguées contre elle durant ce long siège de 1529-1530, c'est justement parce qu'une majorité de la population florentine pense qu'il est possible, même si pour nous ça paraît absurde, qu'il est possible que les prophéties de frère Jérôme de Ferrare de Savonarole puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'il est possible que, par une sorte d'intervention divine, la République puisse être préservée contre ses ennemis. C'est évidemment, ce ne sera pas le cas. Au mois d'août, la République tombe. Les Médicis reviennent au pouvoir. Alexandre de Médicis, très vite, dans les 2 années qui suivent, sanctionne ce retour au pouvoir d'un tournant que ses prédécesseurs, que les autres Médicis n'avaient jamais osé prendre, à savoir la suppression de ce qui caractérisait traditionnellement les institutions républicaines florentines ancestrales, à savoir la signoria, hein, la seigneurie représentant les arts, c'est-à-dire les corporations. C'est chose faite en 1532. Alexandre gouverne désormais avec un sénat d'une 40aine de membres pour donner satisfaction aux grandes familles et quelques conseillers. Les choses seront définitivement réglées, si je puis dire, après la mort d'Alexandre, après son assassinat par Lorenzaccio, donc son cousin, avec la venue au pouvoir du jeune Côme de Médicis, fils d'un condottiere célèbre, Jean des Bandes Noires, qui devient duc de Florence à partir de 1537 et se fera nommer et couronner solennellement 40 ans plus tard, 35 ans plus tard, en 1570, par le pape, grand-duc de Toscane. La République florentine est morte. Nous sommes passés à un État territorial régional, un État territorial, la Toscane, qui n'a plus rien à voir avec la République citadine et qui n'a plus du tout, évidemment, le même rôle sur l'échiquier italien et sur l'échiquier européen. Florence devient un État aux marges de l'histoire européenne. On connaît Machiavel pour l'écriture d'un opuscule, c'est le nom qu'il donnait lui-même au prince, de quelques dizaines de pages, 80, 90 pages. On le connaît pour un grand livre éclaté, Les discours sur la première décade de Tite-Live. On le connaît moins pour ces milliers de lettres qui sont pourtant cette première écriture machiavélienne, qui sont pourtant le foyer dans lequel a été construit une certaine façon de penser, de réfléchir et d'écrire, surtout, sur la politique et l'histoire. Ces milliers de lettres fonctionnelles, ces milliers de lettres de gouvernement, ont été écrites pendant ces 14 années passées à la chancellerie florentine. Ces 14 années dont il nous a dit, nous l'avons vu dans un autre passage de ce cours, qu'il ne les avait passées ni à jouer ni à dormir. Ces 14 années, donc, dans la chancellerie florentine, où Machiavel, comme tout chancelier, écrivit beaucoup, des dizaines de lettres, des centaines de lettres. Chaque jour, il écrivait 10, 15, 20 lettres parfois, ce qui suppose évidemment un type d'écriture et un rythme d'écriture, un temps de l'écriture particulier, spécifique, qui ne pouvait pas ne pas laisser de traces dans les textes machiavéliens qui ont suivi ces 15 ans de chancellerie. C'est-à-dire que ces textes qui, pour la plupart, il faut le souligner, restent encore inédits, puisque n'en ont été extirpés, y compris dans la belle édition récente de l'édition nationale des œuvres de Machiavel, que grosso modo un gros tiers. Ces lettres donc, qui restent pour bonne partie inédites, qui restent donc enfermées dans les archives florentines, sont une source absolument fondamentale pour comprendre non seulement de façon documentaire l'histoire politique florentine de ces années-là, mais pour comprendre aussi l'écriture machiavélienne. C'est pour ça que je crois qu'il est nécessaire, absolument nécessaire, de consacrer une des étapes de notre parcours à ces écrits de chancellerie, ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, d'abord, avant de commencer, je crois qu'il faut faire place nette d'un quiproquo possible. Il est évident que cette écriture est une écriture fonctionnelle, que c'est une écriture en quelque sorte qui relève de l'expression de ce que l'on pourrait appeler un intellectuel collectif, la chancellerie, conçue comme telle d'ailleurs, pour être au service de la République en tant qu'intellectuel collectif, de gens qui ont moins à dire et à donner leur avis qu'à rendre compte et à transmettre, dont on ne demande pas en quelque sorte qu'ils agissent en tant qu'acteurs-auteurs. Et pourtant, ce sont aussi, dans une certaine mesure, surtout chez un personnage comme Machiavel, avec son indépendance d'esprit et sa vivacité, son acuité d'analyse, ce sont aussi des textes d'auteurs. Donc des textes fonctionnels et des textes d'auteurs. Hein. C'est la première ambiguïté, en quelque sorte, de ces écrits de gouvernement. La deuxième étant que ces écrits de gouvernement répondent à une typologie qui peut être variable, hein, selon d'abord qu'ils sont écrits de Florence ou d'un lieu en dehors de Florence, donc selon qu'ils sont écrits du centre, en quelque sorte, ou d'un lieu où Machiavel a été envoyé en mission, selon aussi qu'ils concernent la grande politique internationale, c'est-à-dire les rapports entre États, ou qu'il concerne la gestion du domaine florentin, de l'État florentin, hein, dans toutes ses particularités, dans ses moindres détails, puisque c'est quelque chose qui est au cœur de l'écriture de chancellerie, hein, le détail. Nous avons une typologie qui peut être effectivement variable, une typologie qui est donc difficile à modéliser. Et c'est pourtant ce qu'il faut essayer de faire, de voir comment ces chanceliers naviguent entre des logiques de prescription et des logiques d'analyse, des logiques strictement politiques et des logiques de recueil de données, des logiques de type présentiste, hein, ou des logiques beaucoup plus rares qui les conduisent à se référer à un passé proche ou lointain. Quoi qu'il en soit, ces textes ont une importance dans la mesure où c'est bien par ces écrits de chancellerie que se construit l'unité de la politique gouvernementale florentine. C'est-à-dire que ces textes de chancellerie sont un peu comme une sorte de tissu connectif. Hein. Virgilio Adriani, le supérieur hiérarchique de Machiavel, disait à ce propos que les écrits de chancellerie tressaient un fil perpétuel et continu du maniement de toutes les affaires de la République. Comme si, en quelque sorte, la continuité gouvernementale florentine était assurée par cette écriture incessante des chanceliers, une équipe, hein, une sorte de staff, dirions-nous aujourd'hui, qui passait son temps à transmettre des demandes d'information et des injonctions, des prescriptions, à recueillir les réponses et à réclamer constamment ces réponses-là. Parce que l'écriture ne doit jamais cesser. C'est une constante de l'écriture de chancellerie, c'est qu'on écrit en quelque sorte même quand on n'a rien à dire. Parce que le fait même d'écrire est indispensable, capital pour la continuité de l'État. Quelque sorte. Alors, les écrits de chancellerie machiavéliens, dans cette situation, que représentent-ils ? Comment peut-on les analyser ? Alors, nous pourrions partir d'un certain nombre de caractéristiques formelles de ces écrits. Alors, caractéristique formelle numéro un, si je puis dire, le rappel constant, hein, comme premier réquisite, de l'utilité de cette écriture. J'ai envie de dire de l'utilité a priori de cette écriture. Les personnes qui écrivent sont convaincues, je le rappelais, qu'il faut écrire même quand on n'a rien à dire, que le fil de l'information, en quelque sorte, ne doit jamais être rompu, parce que sinon, la décision qui émanera du centre vers la périphérie, hein, pourrait en devenir impossible. La chancellerie remercie ainsi fréquemment ceux qui lui fournissent des informations, reproche à ceux qui ne le font pas de se taire, appelle constamment à écrire plus souvent, ou affirme même que l'on écrit non pas parce qu'on a quelque chose de nouveau à transmettre, mais parce que tout simplement, il est du devoir du correspondant d'écrire régulièrement. Donc, utilité a priori de cette écriture, parce que tout simplement, selon une métaphore qui est assez fréquente dans ces textes de chancellerie machiavélien, et qu'on retrouvera d'ailleurs dans les textes célèbres post res perditas, après 1512, Les envoyés de la République sont les yeux de la République. Hein. Les envoyés de la République sont ceux qui peuvent effectivement lui permettre de comprendre ce qui se fait, de comprendre les faits, donc d'accéder à ce que Machiavel appellera plus tard, dans un des principes de méthode fondamentaux de son écriture, la vérité effective de la chose, la vérité effective, celle qui est fondée sur les faits et sur leurs effets, à partir des informations qui sont recueillies dans leur masse globale. Ça, c'est le premier point. Donc, utilité de l'écriture, fondée justement cette nécessité, en quelque sorte, d'une vision constante, où d'ailleurs se distingue la vision des destinataires et la vision du centre. Ces deux visions, d'ailleurs, se complétant, hein, puisque les uns voient de près, hein, suivant une perspective de focalisation, alors que les autres voient de loin, avec un angle de vue plus large, une possibilité de mettre en série des éléments plus nombreux, de les hiérarchiser. Et en quelque sorte, on pourrait dire que leurs insuffisances respectives se complètent. Hein. La myopie potentielle des premiers corrigeant la presbytie potentielle des seconds. Alors, premier point. Deuxième réquisite important, l'économie de l'écriture. Alors, c'est une chose qu'on retrouve très clairement dans les textes émanant de la chancellerie et notamment dans les écrits de gouvernement de Machiavel, le fait que ces lettres doivent être précises et utiles du premier mot au dernier. C'est-à-dire que l'écriture doit échapper à toute contingence, elle doit s'ancrer dans la nécessité. Pour reprendre un terme extrêmement fréquent chez Machiavel, hein, la necessita, la nécessité qui est en fait la nécessité des temps de guerre, la nécessité des temps contraires, hein, des tempi avversi. Hein. D'où une série de pratiques récurrentes dont on pourrait énumérer certains des aspects. Par exemple, le fait que l'on n'écrive pas de la même façon dans les lettres privées et dans les lettres publiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas le même type de rhétorique hein, dans les lettres privées et dans les lettres publiques. Le fait que l'on limite dans les lettres publiques à la plus stricte nécessité les formules convenues d'ouverture et de fermeture du message. Hein, puisqu'il convient, selon une phrase machiavélienne, de ne pas multiplier les paroles qui ne sont pas nécessaires. Hein. Le fait d'utiliser des latinismes de chancellerie comme des mots outils qui scandent le texte, hein, etiam, tamen, ulterius, hein, ou bien de les utiliser comme des lieux de condensation d'un sens important et spécifique, à partir d'un dicton, par exemple. Là aussi, on est dans une sorte d'économie stricte du texte. L'usage même dans de nombreuses lettres de gouvernement du « etc. hein, ». Quand le scripteur sent qu'il va s'étendre excessivement sur un énoncé purement formel ou déjà connu. Ou bien l'abondance de formules du type « il n'y a rien d'autre à dire, nous devons dire seulement que hein. ». Il ne faut pas perdre de temps dans ces lettres parce que justement, tout simplement, il y a un rythme nécessaire à suivre de l'écriture dont nous parlions plus haut. On refusera aussi dans ces lettres de s'attarder sur ce qui est advenu, hein, soit que ce soit irrémédiable, donc on n'a plus à en parler, soit que ce soit sans conséquence. Hein. Le passé proche, en général, ne compte que comme projection dans le présent et le futur proche. Il ne faut jamais perdre de temps et d'énergie en d'inutiles lamentations. Le temps bref, le temps tactique, hein, c'est-à-dire celui qui concerne ce qui doit et va advenir, prend systématiquement le dessus sur le temps long, le temps stratégique, hein, probablement plus présent hein, dans les grands tableaux de la situation européenne que l'on trouve dans la correspondance, par exemple, entre Vettori et Machiavel ou dans certaines missives de ses légations diplomatiques à l'étranger. Alors, une dernière chose, un dernier point encore sur cette économie du texte, les avis, hein, les informations, les avis qui viennent de la périphérie ne sont pas le lieu d'une analyse subjective. Hein. C'est en quelque sorte le centre qui doit avoir le monopole théorique de l'analyse. Alors, la chose reste tout à fait théorique, hein, parce que certes, il y a une hiérarchie entre le centre et la périphérie, mais le problème, c'est que le temps de la guerre impose parfois à la périphérie de prendre ses responsabilités et de proposer une analyse sans tarder et sans attendre notamment l'échange et le retour de la correspondance avec le centre. Troisième réquisite, après l'utilité et l'économie, le mélange constant, même si on ne le veut pas, de ce que j'appellerais l'injonction ou le commandement et de ce que l'on peut appeler l'analyse, hein, avec tout ce qui relève de la marge d'initiative du scripteur. Alors je dis même si on ne le veut pas, dans la mesure où, encore une fois, dans les écrits de gouvernement, le monopole de l'analyse devrait revenir effectivement au centre, à Florence en quelque sorte, et jamais aux fonctionnaires en mission. Pour quelqu'un comme Machiavel, il est clair que cette règle n'est jamais respectée, ou n'est pas toujours respectée en tout cas. On lui reprochera d'ailleurs fréquemment la chose. Et un ami comme Biagio Buonaccorsi lui recommande même dans une lettre très privée de ne pas trop en faire en quelque sorte, de ne pas multiplier ses analyses et ses avis, car il dépasse dans une certaine mesure ses prérogatives. Dernier point sur les caractères formels sur lesquels on peut insister, j'y ai déjà d'ailleurs fait allusion précédemment, ce que l'on pourrait appeler une rhétorique du détail, hein, qui est partiellement contradictoire d'ailleurs avec ce qu'on a dit précédemment sur l'économie de l'écriture, hein, puisque tous les détails sont importants, puisque justement celui qui recueille les détails n'a pas le devoir, n'a pas le droit même de les analyser. Donc du même coup, il ne sait pas ce qui peut ou non compter dans l'analyse, et donc il ne doit pas trier. Il ne doit pas hiérarchiser, ce n'est pas à lui de hiérarchiser entre les détails. Donc du même coup, on a une sorte de potentielle extension infinie de l'écrit de gouvernement, pour celui qui est à la périphérie, qui est totalement contradictoire avec le réquisite précédent d'une économie extrême, drastique de l'écriture. Alors, pourquoi j'insiste sur ces caractères formels ? C'est pour montrer comment les écrits de gouvernement ne sont pas des écrits fonctionnels dont on pourrait donner un mode d'emploi extrêmement clair. Ce sont des écrits qui sont en tension. C'est-à-dire que ce sont des écrits qui nous montrent bien que la politique, ce sont aussi des mots et pas seulement des actes, ou plus exactement, que ces mots sont des actes, que l'on ne peut que difficilement et de façon discutable opposer des moments d'écriture théorique à des moments d'écriture pratique, des moments d'écriture plus professionnelle à des moments d'écriture plus réflexive, parce que à chaque moment de l'écriture politique, et surtout quand l'enjeu est aussi grave que celui de la survie de la République, les deux aspects sont étroitement mêlés. Donc, on ne doit ni réduire l'écrit fonctionnel, écrit de gouvernement, à un épisode insignifiant, ni, par ailleurs, l'expliquer uniquement à la lumière de ce qui va suivre, de façon téléologique. Donc, il est clair que les écrits de gouvernement doivent être analysés dans leur autonomie, dans leur spécificité, sans croire pour autant une modélisation trop stricte de ces derniers, mais en les reliant de façon dynamique à ce qui va suivre, sans que ce qui va suivre les conditionne. L'autre chose qui apparaît, quand on énumère rapidement, quand on schématise, hein, de façon certes excessive, mais pour les besoins pédagogiques du propos d'aujourd'hui, quand on schématise ces écrits de gouvernement, ce qu'on voit apparaître dans les caractères formels que j'énumérais, dans cette tension, c'est en quelque sorte le fait que cette écriture est une écriture qui est fragile. Hein. C'est une écriture qu'il est difficile de définir complètement, parce que c'est une écriture qui est étroitement dépendante du temps et de l'espace de la politique, un temps et un espace d'autant plus mouvant et d'autant plus bouleversé que nous nous trouvons, répétons-le encore une fois, dans une situation d'état d'urgence, dans une situation d'état de guerre qui modifie les enjeux, mais qui modifie aussi les pratiques de gouvernement. Hein. Plus la guerre est rapide, plus l'état d'urgence multiplie les situations extraordinaires, au sens étymologique du terme, hein, ces situations qui font que les ordres traditionnels, qui sont aussi les ordres de l'écriture, ne peuvent plus rendre compte de ce qui se passe, plus nous nous trouvons donc dans cette situation, et plus ces écrits sont à la fois, de façon paradoxale, absolument nécessaires, d'une fréquence de plus en plus rapprochée, et en même temps d'une fragilité de plus en plus grande. C'est-à-dire que cette écriture de gouvernement est à la fois nécessaire, fragile, lacunaire. C'est-à-dire qu'elle développe une forme de rationalité qui reste constamment à la merci de la contradiction potentielle massive entre les mots et les faits, cette contradiction potentielle qui mine le gouvernement et qui est au cœur, en fait, de l'histoire de la pensée politique. C'est pour ça que si les textes de gouvernement de Machiavel, si les écrits de gouvernement de Machiavel, si ces écrits fonctionnels sortis de l'intellectuel collectif qu'était la chancellerie sont des textes qui appartiennent à l'histoire comme document, ce sont aussi des textes qui appartiennent à l'histoire de la pensée politique. Ce sont aussi des textes qui nous aident à comprendre, à étudier, à labourer en quelque sorte le champ d'un certain nombre d'apories de cette pensée politique, et notamment, tout simplement, l'articulation entre les mots avec lesquels on dit la politique et les faits de la politique sur lesquels on réfléchit. Alors, je voudrais essayer à cet égard, pour rendre compte de ces lacunes, de ces apories des écrits de chancellerie, développer quatre lieux de crise, hein, du rapport entre ce que j'appellerais le temps historique et les mots de la politique. Quatre nœuds qui vont renvoyer à quatre grands axes de la pensée machiavélienne telle qu'elle se déploiera dans les écrits post res perditas après 1512. Hein, une fois que Machiavel sera retiré en quelque sorte et ne sera plus aux affaires, une fois que les Médicis auront repris le pouvoir dans la cité. Alors, ces quatre nœuds, les qualifierais de la façon suivante: l'occasion, la conquête, le discours comme examen, la qualité des temps. Alors, attardons-nous rapidement sur chacun d'entre eux. L'occasion, on sait que c'est un terme typiquement machiavélien, un terme qui définira pour l'essentiel la spécificité de cette vertu resémantisée telle qu'elle sera utilisée comme outil dans la définition de l'action du prince. L'occasion, c'est le temps héroïque, hein, je dirais, de l'individu. La conquête, c'est celle qui nous renvoie à cette nécessité de la dynamique machiavélienne de l'histoire, le fait que la République doive être une République conquérante, que, en quelque sorte, si on n'avance pas, on recule, et que la République ne peut pas se permettre de se contenter de se défendre, ne peut pas se permettre de se contenter de conserver. Le discours comme examen, hein, le discorso, hein, qui est un examen justement plus qu'un discours, c'est-à-dire cette forme éclatée d'analyse de la réalité qui peut nous permettre d'atteindre la vérité effective de la chose dont nous rappelions l'importance tout à l'heure. Enfin, la qualité des temps, ce syntagme sur lequel nous revenons à plusieurs reprises dans ce cours, qui nous dit à quel point se référer à l'histoire de ce moment-là, ce n'est pas simplement mettre en contexte, ce n'est pas simplement faire une contextualisation des choses, mais c'est travailler le croisement constant des événements et des formes de causalité qui peuvent en être. Ces quatre lieux de crise peuvent ainsi, à mon sens, nous permettre de comprendre comment ces écrits de gouvernement, et ce sera ma conclusion, s'ils relèvent de pratiques quotidiennes et collectives, peuvent laisser transparaître chez Machiavel, dans l'écriture machiavélienne, une pensée spécifique. S'il y a continuité entre les mots, le patrimoine lexical mobilisé et les choix syntaxiques communs à d'autres auteurs, chez Machiavel, cette mobilisation de ce patrimoine peut prendre un autre sens, tout en ne débouchant pas encore, hein, sur le sens qu'il prendra, que prendront notamment certains mots-clés, dans les textes majeurs de l'auteur florentin, du secrétaire florentin, puisqu'il faut bien revenir à cette dénomination qui prend son sens à condition que l'on essaye de réfléchir justement sur ce qu'est un secrétaire. La forme des écrits majeurs de Machiavel est différente de celle des écrits de gouvernement, mais elle ne peut se comprendre dans son tempo, dans son rythme, dans les formes éclatées qui souvent y prévalent, sans justement se référer à cette matrice de l'écriture machiavélienne que fut sa pratique de chancellerie. Machiavel ne retrouvera en quelque sorte son grand récit qu'avec les histoires florentines, 20 ans plus tard, au début des années 20, hein, quand il se mettra à réécrire l'histoire de Florence, mais en s'arrêtant là, pour le coup, à 1494, avant ces guerres d'Italie qui avaient bouleversé l'intelligibilité de l'histoire et donné un autre sens à la pratique de l'écriture du gouvernement.